Vieux, ancien, ancêtre, aïeux, croulant, troisième ou quatrième âge, même dinosaure, c'est souvent un peu l'image que l'on veut donner des personnes âgées.
Bonjour Pierre.
Bonjour Guillaume. Je sais que vous n'avez pas un dinosaure, vous, moi pas encore non plus, je vous rassure. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a frappé. Dernièrement, un économiste et journaliste bien connu s'est étonné, et il en a parlé puisque c'est arrivé à mes oreilles, qu'on ait soigné et guéri son vieux papa de 101 ans par rapport à la dépense que cela a été. Alors, ça me scandalise quand même un peu.
Mais oui, moi aussi.
Bon, eh bien écoutez, c'est passé comme une lettre à la poste dans les médias. Alors moi, je lui suggère, qu'étant proche du pouvoir, eh bien qu'il organise des camps de concentration où, à partir de 75 ans, on met les personnes âgées et qui pourra récupérer les dentiers, les prothèses, les perruques et les lunettes, par exemple. Effectivement, parce que ces personnes âgées, ça commence à poser un problème. Et quand on approche de cette catégorie, ça commence un peu à échauffer les oreilles. La preuve, même dans les fichiers de M. Argaud, que vous connaissez bien, il y a « être jeune aujourd'hui ». Mais être vieux aujourd'hui, il n'a même pas effleuré la question. Il l'a laissé de côté, comme ça faisait peur.
Et pourquoi je l'ai laissé de côté?
Je ne sais pas.
Eh bien, c'est parce que je ne suis pas concerné.
Ah oui, mais...
Le problème, c'est que je ne parle que de ce que j'expérimente. Et justement, je comptais bien sur vous, et je vous en remercie,
ah bon,
pour traiter ce sujet.
Il s'en sort toujours, vous remarquerez. Donc, disons, je vous laisse donc effectivement vos propos, bien sûr. Alors moi, je me suis interrogé, j'ai réfléchi et j'ai cherché, et j'ai trouvé des témoignages dans celui d'un jésuite de 95 ans. Je me suis dit, lui, il devait connaître justement pour pouvoir répondre la question. Et j'en ai tiré des conclusions, elles sont personnelles, bien sûr, et vous pouvez adhérer ou pas, et corriger, bien sûr. Alors, nous allons en discuter. Alors, quand même, au point de vue économique, je préfère signaler tout de suite que les personnes âgées dans notre société européenne, et en particulier française, sont nombreuses, et qu'on leur reproche de coûter cher par la société, parce qu'il y a des soins, il y a des structures à prévoir, il y a les retraites, et ainsi de suite. Mais il ne faut pas oublier quand même que si actuellement, en particulier, je répète encore en France, on vit dans un certain confort et dans d'une façon assez agréable, eh bien c'est quand même ces personnes âgées, par leur travail, leur investissement, ont pu créer quand même ce décor et cet environnement. Et puis même, au niveau bénévole, quand vous regardez les personnes qui s'occupent, âgées de certain âge, qui sont bénévoles dans les associations, c'est remarquable. Le jour où on les retire pour un coup de baguette magique comme ça, il n'y aura plus d'association sportive, ni culturelle, ni d'aucune sorte. Donc je crois quand même que les personnes âgées sont évidemment importantes à notre société. Je n'imagine pas une société sans personnes âgées. Certaines personnes âgées disent eux-mêmes qu'elles offrent beaucoup moins d'intérêt à leurs médecins. Et ils se disent, mais bientôt, on n'aura plus le médicament pour sortir de notre affaire. Je n'irai pas quand même jusque-là. Alors, cet état de vieillesse, c'est quelque chose qui est quand même un cycle naturel. On ne peut pas quand même dire que ça nous arrive comme ça. On sait qu'on est pour grandir et pour vieillir et puis pour disparaître. Et qu'il y a différentes mêmes phases dans le problème de la vieillesse. On est vieux à partir d'un certain âge, un peu plus vieux avec d'autres problèmes à une certaine quelques années plus tard, et ainsi de suite. Alors pourquoi subir tout ce genre de choses? Et elles sont nombreuses. Hein. Il y a une diminution des capacités physiques ou intellectuelles. Alors, vous savez, ce problème des caractères qui sont sur les genoux beaucoup plus petits, les marches plus hautes, et ainsi de suite. Il y a la nostalgie qui vous attrape. Ah, c'était bien mieux avant, ce qui en général est en général faux. Hein. À chaque âge, il y a ses problèmes et ses joies aussi. Et il faut faire attention peut-être aussi aux souvenirs, parce qu'il y a une sélection qui n'est pas tout à fait logique, qui peut se faire. Il y a des problèmes matériels, effectivement, et financiers qui apparaissent. La perte de revenus, la vie qui augmente, et ainsi de suite. Il y a surtout parfois une crainte et une angoisse pour l'avenir, un avenir qui est proche, qui s'approche tous les jours un peu plus. Comment, dans quel état, où, quand finir? Avec douleur, sans douleur, seul ou et accompagné, courageusement ou avec peur. Alors, il y a quand même quelques constatations à faire en parallèle, et je vous laisserai la parole ensuite. Il y a l'éclaircissement aussi de l'entourage. Les enfants sont partis, le conjoint meurt effectivement peut-être, bien sûr, assez rapidement. Vos amis sont de moins en moins nombreux, parce qu'ils sont dans une maison de retraite ou ils sont morts aussi. Il y a aussi des conflits avec la famille, avec les enfants. La personne âgée peut gêner, peut embarrasser. Qu'est-ce que j'en fais? Qui va s'en occuper? Qui garde Pépé pendant les vacances? Et ainsi de suite, comme si c'était le chien, ça arrive. Il y a l'usure du corps, de la patience et d'autres capacités, d'autres fonctions. Il y a aussi une fatigue, une tristesse, une dépression, une solitude qui peut vous accabler. Il y a le regret et l'amertume. On peut parler aussi effectivement de conscience, de culpabilité qui n'a pas été bien digérée. Ne pas avoir fait, vu, dit quelque chose qu'on aurait vu faire, voir ou dire. Il y a un doute aussi sur le bilan personnel. Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait dans ma vie? Est-ce que ça a été bien? Est-ce que c'est mauvais? Le doute sur ses propres convictions. Et si ce n'était pas vrai? Vous voyez ce que je veux dire? À quoi je crois? Si j'avais raté le coche? Si je n'avais pas compris, c'était un peu difficile parfois à comprendre, je n'avais pas fait ce que Dieu attendait de moi. Est-ce que j'ai même bien entendu ce que Dieu me disait et est-ce que j'ai bien obéi? Alors tout ça, ça fait beaucoup de choses à régler, alors que c'est le moment où on peut être fragile et un moment où on s'affaiblit. Et j'ai l'impression, je le pressens, disons, effectivement, et puis pour voir par expérience autour de moi des gens qui ont un certain âge, difficile à résoudre. En fait, c'est un travail de destruction intérieure, on se détruit physiquement et ainsi de suite, et extérieure, et souvent c'est un travail de deuil permanent. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Avant que vous preniez la parole, je voudrais quand même vous signaler que souvent, la peur de mal vivre la vieillesse n'est pas obligatoirement la peur de mourir. C'est autre chose. Je vous écoute.
La première réaction que j'ai, c'est de me dire pourquoi Dieu a-t-il créé la vieillesse? Et
pourquoi Dieu veut-il ça, effectivement? Voilà.
Et je pense que peut-être une piste de réflexion, parce que je ne vais pas y répondre dans l'absolu, c'est pour que nous fassions l'expérience du manque ou l'expérience de ne plus avoir ce qu'on a eu. L'expérience du manque, c'est l'expérience de ne pas avoir. Mais l'expérience de ne plus avoir ce qu'on a eu, c'est presque pire, parce que comme on l'a eu, on l'a apprécié, on l'a mesuré, on en a vu l'efficacité, etc. Et si on a eu une bonne vue et qu'on a une mauvaise vue, si on a eu des revenus qu'on n'a plus de revenus, si on a eu des enfants qu'on n'a plus d'enfants, Dieu nous appelle à faire l'expérience du manque. Et certainement, cette expérience du manque, à mon sens, est une expérience très forte, parce que peut-être, dans l'éternité, aurons-nous une complète appréciation des choses grâce à l'expérience du manque. Si je mets vraiment mon cap dans cette direction-là, alors c'est plus facile de vivre l'expérience du manque, parce que je sais qu'elle a une utilité. Si, comme on a pu l'entendre, on essaye par tous les moyens de rester en forme physique, de rester avec des compétences intellectuelles, avec des relations sociales qui sont nombreuses, qui sont de qualité, etc. Et qu'au bout d'un moment, on se rend compte qu'on ne peut plus y faire face, qu'on n'arrive plus, en fait, qu'on n'a plus la force intérieure, alors on se frustre, alors on est triste, alors on est en colère, alors on est insatisfait, alors on est amer. Alors, comme vous l'avez dit, c'est un véritable travail de destruction intérieure. Mais je crois que ce qui résulte, et moi j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, ce qui résulte de tout ça, c'est que à nous de ne pas travailler pour qu'il y ait cette destruction intérieure. À nous de saisir vraiment, comme dit Paul à Timothée en 2 Timothée 4, ce que c'est que la vie. Et si on est dans ce cap-là, si on est vraiment à notre place en faisant ce que Dieu nous demande avec les capacités que Dieu nous donne, alors je crois qu'il y a ce qu'on pourrait appeler l'intégrité du vieillard,
Oui.
qui en fait est en fin de vie. On peut dire dans cette période où vraiment les forces ont décliné, où on n'a plus grand-chose à faire qu'à attendre. Mais il y a du point de vue intellectuel, du point de vue du regard sur la vie, cette intégrité qui fait que on est à notre place, on reste à notre place. Et je crois que peut-être que parce que les facultés diminuent, alors l'envie aussi de faire ces choses-là diminue, et que on peut trouver avec le Seigneur, par son esprit, quelque chose qui est très cohérent, dans lequel la perte de toutes ces choses ne va pas nous atteindre directement, mais on va vivre quelque chose de juste, quelque chose de plein, quelque chose de satisfaisant, et dans lequel, quand même, on se retrouve.
Nous avons fait donc la description à peu près totale de l'état de la vieillesse, et puis nous commençons maintenant peut-être à réfléchir d'une façon peut-être plus sereine et disons plus spirituelle aussi à cet état. Moi, disons, lorsque j'ai fait cette description, je me suis demandé, et je demande votre avis, effectivement, c'est encore une citation de la Bible, faut-il que le grain meure? Effectivement, on doit connaître justement ce manque dont vous parliez tout à l'heure pour évidemment apprendre à disparaître, hein, mais pour qu'autre chose pousse, et bien entendu, mais plus évidemment pour ce monde-ci, mais pour un autre. Et autre chose, ça, d'après votre réflexion sur cette expérience du manque, ça m'a fait penser aux jeunes. Se mettre dans une situation de manque. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement rapide, même si ça n'a rien à voir, si on peut jeûner à n'importe quel âge?
Dieu nous appelle à, je crois, prendre conscience de nous, à avoir une bonne connaissance de nous-mêmes. Et la mauvaise connaissance de nous-mêmes se fait de fait par l'ignorance. Elle se fait aussi la mauvaise connaissance se fait aussi par le manque d'expérience de quelque chose. Hein, l'ignorance, si je ne sais pas que y a un métal qui s'appelle une platine, hein, et qu'on est en train d'ailleurs en ce moment de chercher à remonter les trésors de guerre avec ces caisses de platine qui sont dans le fond des bateaux, si on ne sait pas qu'il y a un métal précieux qui s'appelle une platine, on a un manque, et de fait, la définition du manque, c'est qu'on ne sait pas qu'on a un manque, bien sûr. Et donc, je crois que l'expérience des choses nous amène à nous en rendre compte. C'est quand on met le grain de blé en terre qu'on fait l'expérience qu'il produit, que un grain de blé va produire 30, 60 ou 100, hein, dans cet ensemble de grains de
Bien
blé.
sûr.
Et si on ne fait pas cette expérience-là, l'expérience de l'investissement, l'expérience de l'abandon, mais de donner pour recevoir beaucoup plus, en fait. Alors, si on a quelque chose qui nous manque et Dieu nous appelle à le faire. Alors, de manière plus précise, parce que ça c'est quand même un peu un concept, si nous ne faisons pas l'expérience de la perte de la vue, alors on ne connaît pas bien tout le grand bonheur de la vue. Et pour moi, porter des lunettes nous redonne une vision qui est correcte. Mais je pense que cette programmation de la vue qui fait que la presbytie touche toute personne à partir de 45 ans et que en fait et que Dieu nous fait passer par là, c'est vraiment pour qu'on réalise à quel point la vue est quelque chose de fantastique et qu'on puisse en tirer profit à tout moment après. Donc je crois qu'il y a une dimension d'investissement, une dimension d'expérience, et qu'il ne faut pas qu'on hésite à faire cette expérience de la dégradation des facultés. Ça peut paraître un peu triste, tout ce que oui, vous avez dit, mais c'est une réalité. Et il faut avoir le courage de le dire. On aurait pu parler de la perte de sensibilité, hein, de la perte des oreilles, hein, devenir sourd, de la perte de sensibilité des doigts, de la perte de sensibilité sexuelle, de la perte de sensibilité artistique de différentes manières. Quelqu'un, par exemple, qui est un grand chanteur, et sa voix, il n'arrive plus à la maîtriser.
Il est obligé de s'arrêter.
La perte des facultés. Mmh. Et donc, je crois que de toute évidence, cette perte des facultés nous amène à un progrès de vie intérieure. Et c'est ce progrès de vie intérieure qu'il faut que nous ayons en cap. Et c'est sûr que si on n'a pas ce progrès de vie intérieure, eh ben on se trouve misérable. On se dit, mais à quoi ça sert? On s'énerve, on se frustre. Mais si par contre on est centré sur le progrès de vie intérieure, alors je crois qu'on peut vivre la circonstance du manque comme quelque chose dans lequel on est presque curieux. On peut sourire en disant, voilà, qu'est-ce que Dieu m'appelle à vivre dans ces circonstances-là? Là, il y a quelque chose qui résulte de la spiritualité, vous en avez parlé tout à l'heure, quelque chose qui appartient à la foi, et les gens qui ne le vivent pas dans la foi ne peuvent pas en être aussi sensibles et excités intérieurement de vivre cette chose-là. Il m'est arrivé assez souvent de visiter les maisons de retraite. C'est clair que dans les maisons de retraite, vous avez, pour des gens de 80, 85, 90 ans et plus, vous avez les gens très souriants.
C'est vrai.
Vous allez vers eux, vers elles, vous parlez un petit peu, et rapidement ils vous disent, ah mais vous savez, moi, je suis dans la foi. Hein, j'ai compris que Dieu m'appelle à ici attendre, là à être utile dans la maison de retraite, là à expérimenter ces choses. Et puis vous avez des gens qui sont amers, qui disent, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas mort? Qui disent, mais ma vie ne sert à rien, qui ont un regard amer sur le passé, un regard inquiet sur le futur. Et là,
voilà, sur le présent.
Et sur le présent, il faut vraiment rentrer dans une vision spirituelle de ces choses.
Alors, donc, la question est très simple, hein, c'est comment vivre sa vieillesse, et je pense que la foi, le spirituel ont leur place, et puis peut-être aussi, on peut être accompagné. Alors, accompagné de Dieu, effectivement, qui est là, à côté de vous, hein, de Jésus, qui marche, mais des autres, là aussi, c'est peut-être pas toujours sûr. Hein, la personne âgée pose souvent des problèmes et donc elle peut gêner ou on ne peut pas la comprendre quand on est jeune, elle inquiète, on s'affole aussi souvent les personnes qui entourent les personnes âgées s'affolent parce qu'ils n'ont pas de solution, ils ne savent pas comment agir, comment intervenir pour eux, même s'ils sont portés de bonne volonté. Alors Dieu peut n'être pas compris dans la situation qui ressemble à cet abandon. Alors que faire là maintenant?
En premier lieu, je voudrais parler de la solitude. Mmh. Et puis après, de comment être accompagné de Dieu ou accompagné des autres.
Oui.
Mais je crois que la solitude, c'est l'état de quelqu'un qui vit mal le moment où il est seul. Et donc, la question, c'est comment Dieu m'appelle-t-il à vivre ces moments où je suis seul? Et une réponse très courte, c'est « Quand je suis seul, Dieu m'appelle à me préparer à rencontrer quelqu'un. »
Donc, avoir une vocation spirituelle.
Oui, et c'est-à-dire que je suis seul, je vais choisir une jolie chemise. Parce qu'en fait, quand je porte une jolie chemise, je ne la vois pas. C'est l'autre qui la voit.
Bien sûr.
Quand je suis seul, je vais choisir de lire un bon livre. Parce que quand je vais rencontrer quelqu'un, on va faire un échange de choses agréables. Quand je suis seul, je vais préparer une bonne recette de cuisine. Parce que quand je vais rencontrer quelqu'un, on va pouvoir manger ensemble. Quand je suis seul, je vais écouter une jolie musique. Parce que quand je suis avec quelqu'un, on va pouvoir profiter de cette musique et avoir un échange qui va être très agréable. Je crois que la catastrophe dans les relations humaines, c'est quand il n'y a pas d'échange. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'échange? Ben, ici, parce qu'il peut y avoir une relation qui est tordue à cause de la domination, à cause de l'indifférence, à cause de la manipulation, etc. Mais il peut y avoir aussi un manque d'échange parce qu'il y a un manque de richesse. Et c'est quand on est seul qu'on se prépare à avoir toutes ces richesses. Les richesses que vous avez, vous, Pierre, parce que vous préparez une émission et parce que vous êtes plein d'un ensemble de choses. Alors ce qui fait que quand on se voit, eh bien, on n'a jamais assez de temps pour se dire tout ce qu'on a envie de se dire. C'est ça la réalité des choses. Et donc les gens qui vivent mal le moment où ils sont seuls, les gens qui vivent mal la solitude, c'est des gens qui n'ont pas appris à à organiser le moment où ils sont seuls. Voilà une première
Oui,
réaction.
c'est vrai que là, j'adhère tout de même à ce que vous dites. Il peut y avoir évidemment un problème d'inadaptation parce qu'on n'a pas su prévoir.
Et ça, quelles que soient les circonstances.
Oui, c'est
Hein?
vrai.
Si on est
C'est vrai, c'est
malade,
vrai.
si on est à l'hôpital, on peut avoir la radio, on peut se faire écouter, même si on n'y voit plus, on peut écouter des choses. Aujourd'hui, il y a quantité d'enregistrements, par exemple, les enregistrements Débrouille-moi, hein, sont à écouter. Hein? Et donc, il y a plein de choses à faire, en fait, hein, d'ordre à passer, de son lit, etc.
Oui, mais il fallait y penser un peu avant. Parce que moi, je vois par exemple des gens qui vont prendre la retraite ou qui viennent de la prendre, et on leur dit, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je ne sais pas, je n'ai pas prévu, je verrai. Et ils se mettent dans une situation difficile.
Alors venons à notre deuxième point. Rester jeune, c'est
Oui.
rester malléable dans la main de Dieu. Pour moi, je réalise bien que cette année, je vais avoir 52 ans. Donc, par rapport à certains, je suis plutôt jeune. Mais par rapport à d'autres que je vais voir demain pour une rencontre de jeunes, je suis maintenant une personne. Je suis pas un jeune. J'ai l'âge d'être grand-père. Et voilà. Et donc. Rester malléable dans la main de Dieu. C'est-à-dire que on a une position d'enfant de Dieu qui est appelée à découvrir peut-être la décrépitude du corps, peut-être la circonstance douloureuse, la perte de force, la perte de capacité intellectuelle ou la perte de beaucoup d'autres choses. Et rester jeune, c'est savoir qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire avec ça. L'important, c'est pas que j'ai perdu. L'important, c'est qu'est-ce que je vais faire avec ça.
Avec ce que j'ai là
Et vous avez
actuellement.
parlé, par exemple, de la mauvaise vue. Eh bien, quand il y a la mauvaise vue, de toute évidence, Dieu a fait que les opticiens ont trouvé le verre progressif, la lunette relativement confortable, même si elle coûte très cher, excessivement cher. Mais en attendant, quand on a une mauvaise vue, on peut avoir des lunettes. Mais quand on n'y voit pas, on peut faire d'autres choses aussi. On peut garder une vie relationnelle. Je crois que le seul moment où on n'a pas de vie relationnelle, c'est quand on est aveugle, sourd, muet et qu'on n'a plus
Paralysé.
de sensations
Oui,
et paralysé, etc.
c'est pas la
Mais
généralité.
voilà, c'est pas la généralité.
Mais
Et
oui.
donc Dieu m'appelle à faire quelque chose. Vous savez parler de nostalgie. Alors la nostalgie, c'est le regard sur le passé, sur ce que je faisais. Mais quand on a un regard sur le passé et excessivement centré sur ce que je faisais, le problème, c'est qu'on n'a plus de regard centré sur ce que je suis appelé à faire. Là, il y a une perte. Rester jeune, c'est se dire, Dieu
Sans parler
m'appelle
de
à faire des
l'avenir, ce qu'on
choses.
va faire
Voilà,
maintenant.
maintenant, tout de suite. Dieu m'appelle à faire des choses. Dieu m'appelle à faire des choses dans mettons, dans ma tranche d'âge. Parce que c'est vrai qu'on est mieux compris dans la tranche d'âge qu'on fréquente. C'est vrai que quand on devrait, ou on peut en tout cas, parce qu'on a les mêmes problématiques, parce qu'on a les mêmes. Souvent,
On connaît.
je me rends compte que vers 50 ans, par exemple, c'est pas rare qu'on n'ait plus ses parents. Donc, on a vécu le deuil. Et c'est vrai que c'est agréable de vivre, de parler à quelqu'un. Ah oui, toi, qu'est-ce que tu as fait?
C'est
Qu'est-ce que tu
vrai.
as ressenti? Hein,
On se
on a quand même, on
retrouve.
se retrouve,
Il y a un
en fait.
miroir.
Donc, vivre dans sa tranche d'âge.
Oui.
Hein? Vous avez parlé de perte de revenus. Alors, c'est sûr que quand on est matérialiste, perdre le niveau de vie, c'est terrible. Mais quand on est dans ce cap de faire ce que Dieu nous demande. Ben si on est, j'ai entendu à la radio hier qu'il y avait des gens qui ne chauffaient pas chez eux actuellement et qui fait 13 degrés dans leur pièce parce qu'ils n'ont pas de quoi payer. Ben qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des chaussettes, ils mettent des pulls, ils ont des couettes, etc. Et ils vivent un peu comme vivaient peut-être nos arrière-grands-parents, hein, parce que effectivement
Probablement,
ils avaient
oui, c'est
froid.
vrai, c'est vrai.
Hein, donc je crois que la perte de revenus n'est pas quelque chose de rédhibitoire, hein, tellement marqué qu'on puisse rien faire parce qu'on a perdu des revenus. Non, je crois qu'il faut apprendre à réagir et à savoir que Dieu finalement nous donne des capacités dans les circonstances dans lesquelles on va arriver.
Donc.
Donc, si vous voulez, pour conclure sur cette réalité-là, cette deuxième chose, on a parlé de la solitude, maintenant on parle de Dieu. Mais Dieu donne. Mais pour qu'on soit dans ce que Dieu donne, il faut forcément recevoir de Dieu. Il faut être dans une relation avec Dieu. Il faut vivre cette tranche d'âge de la vieillesse avec Dieu. Et de ce fait, mais forcément, il faut s'en occuper.
Oui, effectivement. Donc, cette vieillesse peut être acceptée comme un présent de Dieu. Hein? Il faut la prendre comme un don, comme une grâce, parce qu'il y a encore des choses à faire. Et, messieurs, alors souvent aux personnes âgées qui me disent, je ne sais plus que faire, je ne vois plus personne, quand ils sont chrétiens, évidemment, et ça facilite les choses, il faut leur dire, mais priez. Priez pour le monde. Vous êtes le ferment là, dans la pâte. Allez, vous avez cette tâche, cette mission à remplir. Il faut leur trouver des missions. La personne âgée, en fait, ne peut, disons, que vivre, je ne dis pas survivre, hein. Je dis ne peut que vivre cette période, en fait, si elle est toujours dans la société. Si elle accepte de jouer, quelle qu'elle soit sa situation personnelle et difficile, financièrement, matériellement ou physiquement, que si elle continue à avoir un rapport. Alors, avec les autres. Alors, par exemple, eh bien, elle peut rester active dans des associations, rendre des services, même dans une structure d'elle-même, aller voir notre personne plus âgée ou même moins âgée, mais qui peut être malade. Elle peut rendre service, effectivement. Hein, et je disais que même si elle ne pouvait plus bouger, elle a toujours la possibilité de prier pour les autres. Hein. Donc, il y a aussi savoir accueillir l'autre, accueillir et écouter. Ceux qui n'ont pas l'expérience, parce qu'ils ont la personne âgée a un capital, c'est l'expérience, et donc elle peut en faire part. Alors là, je vais être très prudent. Il y a aussi un problème d'autorité, et il faut quand même qu'elle soit discrète. Elle peut faire part de son expérience sans tout à fait vouloir imposer son point de vue, qui peut être un peu dépassé, hein, parce que le temps a évolué. Mais parfois, il y a des personnes âgées qui sont très raisonnables et qui comprennent ce qu'ils peuvent dire et ce qu'ils ne peuvent pas dire. Et je crois que même les personnes plus jeunes ont le devoir de les inciter justement à filtrer, inciter les personnes âgées à filtrer ce qu'elles peuvent dire ou ne pas dire, toujours dans le calme et dans la patience. Donc, il faut effectivement agir, accepter la vie comme elle se présente, bien sûr, nous l'avons dit, et puis effectivement apprendre, comme vous l'avez dit, apprendre le détachement. Mais je crois que la relation avec les autres est quelque chose de très important.
Oui, c'est vrai que la personne âgée peut, par exemple, par dépit de son âge, s'aigrir contre les autres. Parce que quand le monsieur de 60 ans, qui a eu une vie brillante, intellectuelle, sportive, spirituelle, etc., et que tout à coup, à 60 ans, ça commence à pas bien aller, c'est peut-être là où il va moins bien s'entendre avec sa femme. Mais il trouvera tout à coup tous les défauts à sa femme. Mais il ne se rendra pas compte que c'est parce qu'il y a une espèce d'amertume en lui qui fait qu'il ne se sent pas bien et du coup, il passe tout ce qu'il est en train de vivre par un mauvais filtre. A l'inverse, si la personne âgée reste malléable dans la main de Dieu et comprend qu'aller vers les autres est toujours un vrai puits de bénédiction, alors, quel que soit mon état, que j'ai des cheveux blancs, que je commence à avoir des rides, à avoir de la brioche, des choses que je ne peux pas, moi, bien contrôler, en fait, je vais vers les autres, il y a une grande richesse, et là, on ne cultive pas l'amertume, hein, on est dans l'amour, dans la connaissance de l'autre, dans le don de soi et dans l'utilité, comme vous l'avez dit, dans les associations ou autres situations dans lesquelles la personne qui a de l'expérience est terriblement utile. Je ne donne qu'un exemple, c'est l'exemple des grands-parents et des petits-enfants. Combien de fois les grands-parents sont ceux qui modèrent l'attitude des parents à l'égard des petits-enfants ? Et il y a une vraie bénédiction de la part de Dieu, de modération, de faire que l'exemple des parents à l'égard des enfants est modéré par les grands-parents. Remarquez, quelquefois ça peut être l'inverse. Ça peut être aussi les grands-parents qui n'ont pas un bon comportement. Mais voilà, à nous qui vivons cette position de grands-parents, de bien réaliser que nous avons une position extrêmement utile et que quelquefois, quand papa et maman ne sont pas très bien, alors voir les grands-parents généreux, paisibles, ouverts, à l'écoute, ça fait un bien fou pour les petits-enfants.
Mais je crois qu'effectivement, les petits-enfants ont du plaisir à les voir, disons, de sauter une génération et d'aller se mettre, être écouté et être accueilli par les personnes âgées, même si ce n'est pas obligatoirement l'aide des grands-parents, parce que ça les sort du cocon familial. Mais comme vous dites, il faut d'abord que la personne âgée s'y prête, parce que parfois la personne âgée qui va être jeune et dynamique et qui ne peut pas et qui ne veut pas correspondre à son statut, ça peut provoquer quand même des petits problèmes, hein, à tous les points de vue. Donc aussi, il y aurait, en dehors de relation avec les autres, qui est très importante, parce que la vie, c'est les autres. Hein. On a beau dire et beau faire, c'est les autres. Mais on peut évidemment aussi penser justement aux autres, et comme on le dit dans le langage courant, en parler, ça ne fait pas mourir. Donc, il faudrait penser à plusieurs choses. Par exemple, reprendre contact avec des personnes qu'on a perdues de vue. Volontairement ou involontairement, se repentir de certaines choses, pardonner quelque chose qu'on n'a jamais pu avaler de toute sa vie. On peut ensuite, matériellement aussi, disons, pour éviter des problèmes après, au moment de l'héritage, des petits problèmes, prévoir matériellement ce qu'il faudra faire et comment ça va marcher. Et ça, ça peut les occuper, et le fait de le faire, ça ne fait pas, je répète, mourir. Et ça facilite la vie de tout le monde. Et je crois que là aussi, on peut très bien relire sa vie, en fonction de la parole, et déchiffrer aussi les signes reçus. Dire, ah tiens, je n'avais pas compris ça comme ça, et j'aurais dû faire ça.
Tout ça, à mon sens, c'est ce que j'appelle rester jeune devant Dieu, quel que soit notre âge. S'occuper, comme vous l'avez dit, de ce qui touche à la tranche d'âge spécifique, par exemple, préparer l'héritage.
Continuer à être le bon intendant, en
exactement,
fait.
Hein. Exactement. C'est peut-être intéressant à cet égard de voir un passage biblique dans la lettre à Tite, au chapitre 2, où on voit que dans cette lettre dans laquelle Paul interpelle Tite en lui disant qu'il faut qu'il mette de l'ordre dans les choses qui restent à régler, c'est le chapitre 1 et le verset 5. Alors, au chapitre 2, il y a 6 catégories de personnes.
Oui.
Dont les deux premières sont les personnes âgées, les hommes et les femmes. Alors c'est intéressant de voir que les ordres que Paul va donner à ces personnes-là sont différents en fonction de l'âge. Par exemple, aux jeunes hommes, donc Tite chapitre 2 et verset 6, Paul dit, exhorte les jeunes hommes à être sobres. Une seule chose, être sobre, comme si la faculté des jeunes hommes... c'est vraiment d'avoir de la force, hein, de la force, mais avec la force, on risque d'être un peu emporté, un peu bourrin, un peu... on a tellement de force qu'on va utiliser sa force, mais ce n'est pas le cas des jeunes hommes qu'on connaît habituellement, hein, on va le dire, hein, avoir cette faculté de mettre toute sa force en œuvre, et on va faire sauter les verrous, on va faire avec des grands idéaux, mais on manque un peu de recul. Et donc, Paul va dire aux jeunes hommes de ne pas trop utiliser leur grande force. Ce qui est intéressant, c'est qu'aux hommes âgés, Paul va dire 6 choses. Et dans ces 6 choses, il y a cette force aussi. Il y a cette sobriété à l'égard de leur force. L'homme âgé garde une certaine force. Donc, mais par contre, elle est accompagnée d'autres choses.
Oui, cette force, c'est vraiment une image qu'il a imposée du temps de sa vie d'adulte et qu'il garde parfois dans son entourage.
Voilà.
Ça peut être ça aussi.
Voilà. Il peut y avoir des choses un peu fausses comme ça, oui. Mais on va noter tout ce que Dieu nous appelle à faire, nous, en tant qu'hommes âgés, en Tite, chapitre 2, verset 2. Il est dit donc que les hommes âgés soient donc sobres, c'est pareil, mais graves.
Ah.
C'est-à-dire avec une sorte de solennité, avec la conscience des choses, la conscience du temps qui passe, avec la conscience de ce qui s'est passé, avec l'expérience des chutes, avec la conscience du risque.
Et de s'accepter comme on est, ce que je disais tout à l'heure, ceux qui veulent refuser leur situation actuelle et qui veulent paraître jeunes, et qui, à mon avis, ne sont plus tout à leur place, et effectivement.
Voilà, je continue, qu'ils soient sages, hein, qui est la recherche de cette action qui va finalement se faire de bonne manière, hein, qu'il soit sain dans la foi. Sain dans la foi, avoir une foi saine.
Oui.
Saine. C'est-à-dire qu'eux comprennent ce qui relève de la relation à Dieu. Eux comprennent ce qui relève de la simplicité de la relation à Dieu. Alors que le jeune homme, il faut qu'il découvre.
Il faut qu'il découvre. Oui, là, elle est devenue plus pure, peut-être, oui, de la foi.
Plus pure, plus efficace, plus centrée. On sait mieux où est la porte, peut-être.
Voilà, oui, oui.
Hein? Ensuite, saint dans l'amour. Avec un amour saint, un amour essayen, un amour qu'on a un peu débarrassé des scories, de l'inutile, peut-être de faire la différence entre l'amour et le désir.
Mm-hmm.
Hein, comprendre que aimer, c'est connaître l'autre plutôt que vouloir l'autre parce qu'on veut le manger, on veut profiter de lui, l'avoir à soi. Ensuite, il est dit saint dans la patience.
Oui.
Alors, c'est intéressant, la foi, l'amour et la patience, qui est un peu le credo de l'apôtre Paul, on trouve ça un peu dans toutes ses épîtres, hein, Colossiens, aux Thessaloniciens, on trouve ça même dans la bouche de Jean, dans Apocalypse 2, hein, l'amour, la foi, l'amour et l'espérance, hein, les trois grandes vertus théologales. Hein,
oui.
Voilà. Et donc, c'est intéressant de voir comme il dit que les personnes âgées, les hommes âgés, vivent bien ces trois choses, la foi, l'amour et la patience, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont compris, ils ont expérimenté, ils ont touché du doigt, et le jeune homme, c'est quelque chose qu'il doit apprendre. Et alors, quand la personne passe à l'âge, et vous savez quel est le mot grec pour dire que quelqu'un est âgé, c'est presbytis, qui a donné presbytie.
Mm-hmm.
À quel âge on est presbyte? Eh bien, 45 ans. Tous ceux qui passent 45 ans sont, dans la Bible, des personnes qui ont pris de l'âge.
Ah oui, d'accord.
Hein, voilà. Et donc, on a toute cette tranche de vie pour comprendre, en fait, qu'est-ce qui relève, justement, de la foi, de l'amour, et de la patience ou de l'espérance. Et donc, par rapport au jeune homme, voilà toutes ces vertus qu'on a acquises et dans lesquelles il faut qu'on reste. Mais c'est plus facile d'y rester dès l'instant où, finalement, on les a acquises. Alors, voilà comment est-ce qu'on... On peut déjà faire la différence entre le jeune homme et l'homme âgé, et tout à l'heure, on va faire la différence entre la jeune femme et la femme âgée.
Parle des hommes, mais je suppose qu'il aussi s'inquiète pour les dames.
Alors, dans ce fameux chapitre sur l'ordre, avec des ordres différents pour qu'il n'y ait pas de désordre, hein, voilà un petit jeu de mots, Paul parle aussi des femmes, hein, dans cette lettre à Tite, et il va dire, il va parler des femmes, des jeunes femmes, avec notamment le fait d'apprendre, c'est un peu curieux, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être sages, purs, occupés des soins de la maison, à être bonnes, donc avoir de la bonté, à être soumises à leur mari. Vous voyez qu'il y a quand même quantité de choses qui sont proposées aux femmes et on pourrait en faire un recueil de formation au mariage,
oui.
Avec des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Et pour les femmes âgées, alors c'est assez, je trouve que c'est assez presque un peu dur pour les femmes âgées, il y a trois choses qui sont proposées. La première, donc c'est dans le verset 3 de Tite 2, de ne pas être médisante. Alors je vais dire tout de suite les trois choses. De ne pas être médisante, de ne pas boire beaucoup de vin et d'enseigner de bonnes choses.
Est-ce qu'il ne connaissait pas particulièrement quelques personnes de son entourage? Parce que là, quand même, médisant, je ne veux pas dire que les dames ne sont pas médisantes, elles le sont, certes, mais les hommes aussi.
Alors, je vais vous dire comment je comprends les choses.
Oui, parce que là, il y a que ce qui m'échappe. Hein.
Je crois que nous, les hommes, je dis ça parce qu'on est ici, on n'est que des hommes, donc nous, les hommes, nous sommes quand même beaucoup centrés sur ce que nous faisons plutôt que sur ce que nous sommes, sur nos relations avec les gens. Quand des hommes parlent ensemble, ils parlent de projets. Quand des femmes parlent ensemble, elles parlent d'elles. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est une différence essentielle entre les hommes et les femmes. On le verra dans un autre enregistrement. Oui. Et ce qui fait que quand un homme est blessé, il est blessé dans son projet. Un homme est susceptible quand on lui dit « mais ce que tu le fais mal ». Alors qu'une femme, elle est blessée dans une blessure relationnelle. Oui. Et il me semble que la blessure relationnelle, elle est plus douloureuse. C'est plus difficile d'être touché par la personne que d'être touché par l'action. C'est pour ça que peut-être l'homme, la femme est souvent courageuse, valeureuse et accomplit des choses extraordinaires. Mais je crois que quand elle est blessée, elle subit quelque chose. Et l'organe de la blessure chez la femme, c'est la médisance. La femme va dire quelque chose qui va blesser parce que la femme va parler des gens. Et quand elle parle des gens, quand elle touche les gens, alors ça fait mal aux gens. C'est pour ça que je crois que l'homme va plutôt être, quand il va faire mal quelque chose, il va être paresseux. Ou alors il va faire mal parce qu'il est fort, qu'il blesse par sa force.
Oui, mais là, ce n'est pas particulièrement des personnes âgées.
Eh bien, je ne suis pas certain. Par exemple, dans les maisons de retraite, si on écoutait un peu les souffrances des gens, il faut voir les souffrances qui sont faites par les hommes et les souffrances faites par les femmes. Et si la parole de Dieu met l'accent sur la médisance,
je crois... Maison de retraite, ils n'ont pas autre chose à faire.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, je crois que on a à entendre que la femme, par ce qu'elle dit, peut être vraiment... il faut qu'elle fasse attention. Je crois que l'homme et la femme n'utilisent pas la parole de la même manière. Je crois que la motivation de l'homme quand il parle, elle est pas de la même manière. Quand un homme parle, il va essayer de faire des choses, il les fera mal. Mais ici, la femme, elle entend qu'il faut qu'elle utilise finalement son organe relationnel, la parole, de bonne manière. Passons au deuxième point.
Oui.
Pas à boire beaucoup de vin. Quand on boit du vin, par exemple en France, c'est évident, il y a autant d'hommes que de femmes qui picolent.
Qui boivent.
Oui. Qui boivent. Voilà, je crois qu'il n'y a pas photo, mais je pense qu'il y a certainement des raisons différentes de boire. Je crois que l'homme boit pour oublier, que l'homme boit pour... Mais oublier quoi? Ses échecs.
Ses échecs.
Hein, pour oublier. Et je pense que la femme boit pour oublier sa solitude, pour oublier son manque relationnel. Et encore une fois, le manque relationnel, elle étant peut-être spécifiquement relationnelle, eh bien la femme a quelque chose à compenser de plus grand ou de plus important que l'homme, parce que l'homme va essayer de compenser son action, alors que la femme va compenser son manque de relation. Oui. Et je crois qu'il faut que la femme aille vers cet âge, ce grand âge, avec ce fort sentiment qu'elle doit rester en relation, qu'elle ne doit pas chercher à compenser.
C'est vrai que, oui, c'est ça. Boire, c'est justement compenser la solitude ou une faiblesse. Voilà ça. Puis, il y a un troisième point, je crois.
Il y a un troisième point qui touche à la capacité à instruire de bonnes choses. Alors, c'est sûr que toutes les maîtresses d'école, toutes les directrices d'école, toutes les... les chefs d'entreprise qui sont des femmes, les ministres, diraient, mais bon, ben ça, c'est un livre qui a fait son temps et qui raconte n'importe quoi. Moi, je ne suis pas certain que ça raconte n'importe quoi. Je pense que, là aussi, peut-être que la femme, de manière générale, et il faut tenir compte de l'éducation qui apprend à une femme à être beaucoup plus ordonnée, à être pédagogue, etc. Mais, de manière générale, la femme, qui est relationnelle, a tendance à parler de beaucoup de choses à la fois, peut-être, a tendance à accorder plus d'importance à la relation qu'à l'action, et de ce fait, dans l'instruction, à perdre de vue qu'il y a quelque chose à dire et à ne pas aborder plusieurs choses à la fois.
Mais tout à l'heure, vous parliez des petits-enfants et des grands-parents. Mais c'est souvent les grands-mères qui apprennent à leurs petites filles à tricoter. Ça se fait plus beaucoup maintenant.
Et oui.
Ou une petite recette de cuisine. Donc, elles font partager leur expérience.
Et ça, c'est très
beau. C'est le rôle de la... On voit que le grand-père peut apprendre à jardiner aussi aux petits-fils. Bon, mais c'est quand même, on le voit plus facilement du côté des grands-mères. Oui, c'est vrai.
Alors donc, voilà, on pourrait dire, un enseignement particulier sur l'âge, hein, qui est donné par l'apôtre ici, par l'apôtre Paul, avec ses tranches d'âge, des ordres qui sont spécifiques à la sexuation, hein, pour les hommes et pour les femmes, et desquels il faut tenir compte. Il me semble qu'il donne également un enseignement sur les capacités dans une simple expression comme celle qu'on trouve dans la première lettre à Timothée et au chapitre 5, au verset 1er, il dit « Ne reprends pas rudement l'homme âgé ». Alors je trouve que c'est intéressant parce que ça montre que quand l'homme est âgé, ben, il perd un peu cette faculté de réaction, de mesure, de capacité à comprendre. Et donc, il faut que la génération plus jeune comprenne
et oui.
En fait, qu'il faut prendre du temps, rester dans la relation, dans la bonté, dans la patience, dans l'attente. Mais il faut aussi que l'homme âgé se prépare à avoir cette perte et à savoir que dans ses relations avec la jeune génération, il y aura certainement des conflits où la jeune génération sera impatiente, aura envie que les choses se fassent. Et donc, la personne âgée dira, bah, écoutez, moi, c'est vrai que j'ai perdu un peu en efficacité. Alors, voilà, je vous laisse le soin d'être efficace, mais c'est bien qu'on échange quand même pour que je vous dise éventuellement mon point de vue et qu'après vous fassiez comme vous pouvez faire.
Un partage. C'est un partage, en fait, d'expérience et de vie. Alors aussi, il y a d'autres points, effectivement, qui peuvent venir. C'est une expérience que j'ai eue. J'ai accompagné une dame relativement âgée, qui était une amie, et qui était, comme on dit, pour simplifier, très pieuse. Je la comparais à Anne dans le temple. Et puis, à la fin, elle n'en pouvait plus de la Bible. Elle arrivait à avoir un doute, une fatigue, moins d'intérêt. Elle semblait que c'était du déjà vu, du déjà entendu. Elle n'avait plus soif. Et je me disais, mais quand même, c'était un peu curieux de ma part, mais c'est le moment où jamais quand même qu'elle remette les pendules à l'heure, je sais pas. Et elle refusait cet aspect-là. Et ça m'a un peu surpris, comme quoi quelqu'un qui avait fait toujours ce qu'il fallait, enfin, entre guillemets, se trouvait épuisé.
Mon expérience à cet égard, mais ce n'est que mon expérience, hein, c'est quand même que avec ce passage biblique, hein, de Galates 6, versets 7 à 10, on ne se moque pas de Dieu, ce que quelqu'un sème, cela aussi il le récoltera. Mon expérience, c'est quand même qu'on devient ce qu'on sème. Et je pense que quand tout à coup on perd quelque chose, je ne suis pas sûr qu'on perde vraiment quelque chose, je pense qu'on fait tout à coup l'expérience de ce qu'on n'a pas acquis. Comme vertu. Hein, tout à l'heure, on parlait de la vertu, de la foi, de l'amour et de la patience, ou de l'espérance. Oui. Et si on n'a pas travaillé sur ces trois vertus, la foi, la relation à Dieu, l'amour, la relation à l'autre, et l'espérance, c'est-à-dire le fait d'accepter que les circonstances soient contraires et de savoir attendre que les choses viennent. Alors je crois que quand on n'a pas travaillé sur ces choses-là, alors à un moment donné, au moment où on a besoin en fait, de ces vertus-là, on ne les a pas. Et je pense que ça doit nous encourager à préparer notre vieillesse, à être dans une démarche où on est sérieux avec Dieu, où on fait les choses, et il me semble que le fait que Dieu ait utilisé Moïse dans la tranche de vie dans laquelle en général on meurt, hein, entre 80 et 120 ans, montre que en fait toute la vigueur Dieu nous la donne quand on en a besoin, et que de fait c'est à nous de le servir jusqu'au bout et non pas, à un moment donné, de tout relâcher ou, au contraire, de ne pas se préparer à le servir.
Moi, je pensais aussi que cet ami était arrivé à un certain point. Elle était proche du Seigneur, elle était paralysée, elle ne bougeait plus. Donc, elle était là, en relation intime, en permanence presque avec Dieu. C'est d'abord ce qu'elle nous met. Peut-être qu'elle était là parce qu'elle est arrivée. Et c'était... quelque chose de magnifique. Alors, le doute aussi, puisqu'on parle du doute, en fait, il faut apprendre à le gérer, comme Jésus, parce qu'on ne peut pas oublier que Jésus aussi, au Mont des Oliviers, a eu une période de souffrance aiguë, là. Hein. Et donc, persévérer, peut-être, et chercher à travailler son doute, ça peut être aussi un signe qu'on avance. Parce qu'on est obligé de peser le pour et le contre, d'éliminer certaines choses et chercher, un peu comme si on cherchait dans un jardin, une pièce qu'on a perdue.
Absolument. Douter, c'est ne pas savoir. Mmh. Et jusqu'au bout, on a à vivre le doute. Et le problème du doute, c'est que finalement, quand on devient vieux, les forces diminuent et qu'on a de moins en moins de forces pour vivre ce doute. Alors si on a toujours pris l'habitude de vivre spirituellement le doute, alors on n'est pas déstabilisé. Mmh. Si au contraire, on a toujours vécu dans des rails, par exemple, mon église est la meilleure, et tout à coup, à 80 ans, l'église se fracasse parce que rien ne va plus, parce que les responsables vivent dans l'immoralité, ou etc. Alors là, il y a des blessures qui sont très profondes et qui surviennent. Si au contraire, on n'a pas pris cette habitude-là, alors je crois qu'on peut gérer ce genre de problème. Concernant Jésus, je ne dirais pas qu'il a vécu le doute, parce que Jésus savait ce qui allait lui arriver. Hein, il est dit plusieurs fois, Jésus sachant toutes les choses qui allaient lui arriver.
Oui,
mais par contre, Jésus a vécu l'angoisse, a vécu la tristesse dans l'âme.
Il a,
il a vécu des choses très, 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 très difficiles.
Je crois qu'il faut dire qu'il faut discerner ce que Dieu veut, on a le temps d'y réfléchir, d'y voir, hein, le faire et ainsi être avec Dieu. C'est-à-dire que c'est un moment où peut-être on a une intimité, parce qu'on est peut-être moins distrait dans le sens large des choses du monde, et donc on peut être en relation avec Dieu. Et puis aussi il y a une chose, effectivement, et c'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens 15, 19, « Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à pleine des hommes. » En effet, c'est le moment à penser qu'effectivement, il y a quelque chose après.
Oui, c'est sûr que, un peu dans la même veine, cette expression « vie éternelle » doit nous interpeller. Jésus dit, Jean chapitre 17, verset 3, « C'est ici, c'est ceci, la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. » Nous sommes déjà dans la vie éternelle. Donc si on ne considère pas la vie après, le prolongement de la vie ou la mort qui n'est qu'une étape, alors on est misérable. Il faut vraiment qu'on comprenne que notre vie a commencé dès l'instant où nous sommes nés et que nous sommes en train de l'agrémenter de différentes manières et que les 90 premières années de cette vie sont la vie de l'enfant et que par rapport à la vie éternelle, c'est
en fait qu'on arrive à, hein, à un but,
voilà,
à une ouverture.
Et ça, c'est un cap essentiel ou fondamental, pourrait-on dire, pour bien vieillir. Hein, se rendre compte que nous préparons une vie et que nous préparons à la fois la venue du Seigneur, mais aussi notre vie avec lui.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi, effectivement, vis-à-vis de notre regard, ou du regard de la personne âgée sur son passé, sur son avenir, justement, là.
J'ai été étonné d'entendre plusieurs fois des personnes âgées me dire que depuis très 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 longtemps, elles portaient l'ensemble de leur vie comme une souffrance, ayant fait des choses qu'elle ne voulait pas ou n'ayant pas fait des choses qu'elle voulait. Et je crois que résoudre ce problème-là, c'est vraiment essentiel. Comment le résoudre? C'est l'apôtre Jean qui dit en 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier nos péchés ou nos iniquités. » Et comprendre qu'on est purifié, il faut un peu de travail pour ça. C'est comme si, par exemple, quelquefois je propose aux gens qui viennent me voir de d'écrire sur une feuille blanche le chemin de leur vie et de matérialiser leurs fautes avec du noir, hein, avec un signe, et puis après de mettre du blanco dessus. Voilà, c'est ce que Dieu a fait. Il nous a purifiés. Dieu ne se souvient pas, en fait, de ce qu'on a fait. C'est pas qu'il ne le sache pas, c'est qu'il ne le fait pas revenir en mémoire. Et donc, ce que Dieu a purifié, nous n'avons pas à le tenir pour impur. Et voilà comment quelqu'un peut avoir un regard sur son passé qui est vraiment selon Dieu. Je pense à cette expression de l'apôtre Paul en Philippiens 3. Il dit, je fais une chose. Il dit, je tends avec effort vers celles qui sont devant et j'oublie celles qui sont derrière. Mais il oublie à la fois les choses qu'il a bien faites
Les
et
mauvaises.
les choses qu'il a mal faites. Et il ne porte pas là, sa vie comme quelque chose qui serait vraiment voilà, mauvais. Voilà. C'est important de faire ça et il faut vraiment travailler là-dessus. Alors, le regard sur notre vie, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se trouve, hein, ou liant les choses qui sont derrière. Voilà une expression qui a toute sa force, mais qui résulte aussi du travail que Paul a fait un peu plus tard, puisqu'il écrit Philippiens, il a environ entre 60 et 62 ans. Mais un peu plus tard, il va écrire à Timothée, un ou deux ans après, dans sa première lettre à Timothée, et il va dire, je suis le premier des pécheurs. Pourquoi? Parce que Paul a été meurtrier, parce que c'est lui qui a commandé le martyre d'Étienne qui a été lapidé. On voit ça dans le livre des Actes au chapitre 7. Et donc Paul, il n'a pas oublié qu'il est meurtrier. Mais par contre, il a réglé ces choses. Et il en parle parce qu'il les a réglées. Et donc il ne porte pas ça comme un fardeau. Voilà. Donc vivre avec sa vie, c'est possible. Vivre avec sa vie, quelle qu'elle soit, c'est possible. Et sachant que Dieu en fera quelque chose. Et ça demande une méditation devant Dieu, ça
Un
demande un
travail.
travail.
Un travail. Alors, on ne peut pas parler des personnes âgées sans parler des maisons de retraite.
Eh oui. Eh
Alors,
oui.
vous avez des contacts avec les maisons de retraite, dont vous avez peut-être un certain regard particulier.
Voilà. Je trouve que dans un premier temps, c'est absolument clair qu'il faut aller voir ces personnes. Nous, régulièrement, on va chanter dans les maisons de retraite. Hein, on a une chorale de l'église, hein, de la paroisse, et on fait ça simplement avec affection, où on a quelque chose de vivant, vous savez, avec les enfants qui viennent chanter et qui viennent chanter les chants de Noël. On fait un peu comme une crèche vivante. Hein, quelquefois, on a mis même des peaux de mouton sur les enfants qui étaient à quatre pattes pour que les personnes âgées puissent être touchées par ces enfants. Mais il y a aussi une autre chose. Quand on est en situation d'avoir des grands-parents ou des parents qui ne peuvent plus être autosuffisants, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que par tranquillité, est-ce que dans un sens, par égoïsme, on va dire, ben voilà, hein, il y a des maisons de retraite, les parents ont largement ce qu'il faut pour payer les maisons de retraite, on va prendre ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus. Voilà, très très riche, très très bien, mais ou alors est-ce qu'on va se donner les moyens de vivre ensemble, de faire que les parents puissent être avec nous, avec cette possibilité d'être autonome, d'être indépendant, mais de rester dans un milieu qui est favorisé. Aujourd'hui, par exemple, il y a énormément de soins à domicile. Hein, les
Oui,
kinés à domicile,
c'est
les
vrai.
infirmiers à domicile, même les lits médicalisés à domicile. Mon père est mort. Chez lui, hein, avec ma mère qui était plus jeune que lui, et il avait un lit médicalisé où il y avait une
Oui, ça se
perfusion, il y
trouve,
avait
oui.
ou un lit qui
Un bûcher de thon,
un
oui.
lit anti, comment est-ce qu'on appelle,
Escar.
escarre, voilà, hein, donc et tout un tas de choses, et qui fait que ça coûte beaucoup moins cher à la société aussi de faire que les personnes âgées puissent rester
Certains,
chez
bien sûr,
elles.
chez elles.
Et donc je crois que nous, les plus jeunes, on a une véritable réflexion sur ça. Qu'est-ce qu'on préfère? C'est clair que Dieu nous appelle à l'échange intergénérationnel, à rester ensemble, à se parler. Mais alors pour tout un tas de raisons, cet échange-là n'est pas facile. Il n'est pas facile parce que les jeunes sont plus, sont peut-être, veulent être efficaces, veulent pouvoir faire ce qu'ils veulent pouvoir partir en week-end sans
Autonome.
être autonomes. Et je crois que là, il y a une véritable réflexion et on peut en parler ensemble. Et voir quelles sont les attentes des plus âgés, les attentes des plus jeunes, à chaque fois régler ce qui peut être fait. Et je pense que c'est possible. Personnellement, vous me connaissez, vous savez qu'on a pris une
Une
tente,
tente,
hein, à la
oui.
maison. Elle a 88 ans et donc voilà, on vit ça. Et c'est peut-être que je peux un peu rentrer dans les détails par expérience et dire que, par exemple, quand une personne qui est célibataire et qui est âgée arrive difficilement à joindre les deux bouts parce qu'il fallait qu'elle paye sa voiture, qu'elle paye les charges de
Assurance.
l'appartement, l'assurance, etc., elle se retrouve à la maison, elle n'a plus de frais, et là, elle se retrouve riche et généreuse. Et puis, c'est valable pour tout le monde.
Et bien
C'est-à-dire
sûr.
qu'en fait, elle se retrouve généreuse avec qui elle veut être généreuse.
Ben avec celle
Forcément,
qui.
avec ceux avec qui elle vit.
Oui.
Alors, si vous voulez, je ne dis pas ça pour encourager les
Une
personnes,
démarche intéressée.
voilà, avoir une démarche intéressée, mais de montrer que Dieu bénit. J'ai, à un moment donné, été très, très interpellé par un petit feuillet de calendrier. Vous savez, ces calendriers
Oui.
où il y a des versets bibliques. Alors, il y avait l'histoire de quelqu'un dont je ne me souviens plus exactement du nom, et qui marchait dans la neige avec un ami. Et ils avaient beaucoup de mal, ils avaient peur. Et tout à coup, ils rencontrent quelqu'un qui était dans la neige en train de mourir, presque bleu, de froid, etc. Et alors, l'un qui était généreux a dit, on va le prendre. Et l'autre qui dit, mais on a déjà du mal à arriver. Non, laissons-le, c'est trop tard pour lui, et nous essayons d'arriver. La personne généreuse dit, non, non, moi je vais le prendre sur mon dos. Et l'autre personne dit, bon ben, soit, mais l'autre personne voit que la première personne marche lentement, alors elle dit, mais moi je ne peux pas attendre, je vais marcher plus rapidement pour aller chercher les secours. Eh bien, cette personne-là qui marchait plus lentement, elle a réchauffé la personne qui était sur son dos, elle est restée en chaleur, dans une température normale, et en marchant lentement, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a découvert que la personne qui marchait plus vite, elle est morte de froid.
Et seul.
Et seule, alors que elle qui a marché plus lentement, elle est restée dans ce rapport fantastique pour arriver jusqu'au bout. Moi, ça, s'il y avait quelque chose à me motiver, uniquement cette pensée-là, elle me motive, vous voyez, alors je vous la transmets.
C'est gentil.